Cours de philosophie critique par le père Philippe à Saint-Chaudard, le 13 avril 1988.
Comprenons bien que cette diversité des jugements, jugement d'existence, jugement de la découverte des principes, jugement de sagesse, jugement affectif, puis on va continuer, dépendent des alliances profondes de l'intelligence avec nos diverses facultés, nos diverses puissances. On verra ça au terme. À côté du jugement affectif, posons le jugement prudentiel, qui n'est pas tout à fait le même. Le jugement prudentiel porte sur des moyens, le choix. On choisit de faire profession. C'est un choix. Oui, c'est pas le jugement affectif absolu. On choisit un ami, on choisit de faire profession. On choisit un métier. On choisit la recherche de la vérité. On choisit d'être mécano. C'est un choix. On choisit de faire des icônes. Le choix prudentiel est un jugement qui implique quelque chose d'affectif et en même temps qui implique quelque chose d'efficace. Un moyen, on s'en sert. Un ami, on ne s'en sert pas. Vous savez, ce que Descartes considère que la volonté est essentiellement une puissance d'efficacité et non pas une puissance affective d'amour. Pour saint Thomas, le volontaire est premièrement affectif et secondairement efficace. C'est très important de bien comprendre ça chez Descartes, parce que ça fait comprendre ce qu'est sa morale. C'est une morale qui prépare l'impératif catégorique. Parce qu'au fond, la morale de Descartes est une morale d'efficacité. Volontaire d'efficacité. Pour Descartes, l'affectif est au niveau passionnel. Et uniquement au niveau passionnel. Donc le jugement prudentiel est un jugement qui porte sur le lien qui existe entre les moyens et la fin qu'on poursuit. Est-ce que ce moyen est adapté à la fin? Est-ce que ce moyen est bon pour la fin? Est-ce que ce moyen est capable pour moi d'atteindre la fin? Le choix de l'ordinateur. Savoir si l'ordinateur est un moyen efficace et un moyen bon. Un moyen efficace, personne n'en doute. Est-ce que c'est un moyen efficace qui ne détraque pas tout dans l'ordre pratique, qui me fait abstraire sans que je m'en aperçoive de toute une série de données qui fait qu'au terme, mon jugement prudentiel sera faussé? Oui, c'est là au fond un jugement prudentiel d'un choix d'un instrument. Quand vous introduisez dans l'organisation intérieure d'une communauté, qui est une famille, qui n'est pas une communauté d'efficacité, en premier lieu, quand vous vous introduisez dans une communauté qui est une famille, un instrument qui ne peut marcher que pour l'efficacité, est-ce que vous n'allez pas tout chambouler au terme? Parce que vous aurez dans tous les conseils un homme de l'ordinateur qui sera l'homme de l'efficacité et qui dira « voilà l'aspect objectif ». Et à ce moment-là, vous ne regarderez plus que l'efficacité et tout l'aspect de la finalité de la famille, qui est le maintien de la concordia, de l'amitié. La première finalité d'une famille, c'est l'amitié. C'est pas l'efficacité. Or, l'ordinateur fait abstraction de l'affectif. Il a horreur de l'affectivité. Et il fait semblant de le réintroduire. Il ne le réintroduit pas. Oui, c'est problème, un jugement prudentiel qui doit aller très loin. Ici, la sagesse. Ici, l'intelligence, dit l'Apocalypse. Pour nous faire comprendre qu'il y a là quelque chose de très important. Dans quelle mesure l'ordinateur est-il lié à la bête de la terre? Ou à la bête de la mer. C'est simplement des questions pour que vous compreniez mieux ce que c'est que le jugement prudentiel et le jugement affectif et le lien entre le jugement affectif et le jugement prudentiel. On va faire une conférence à Rimont, un dernier cours. Question disputée entre le père, le frère, Alain Marie et le frère Samuel. Heureusement que c'était public. Il valait mieux. Alors, on voit ce que c'est comme position. Ça pourrait être écouté ici. C'est intéressant. On ne conclut pas. Je ne voulais pas qu'on conclue. Je voulais simplement qu'on regarde et qu'on soit attentif. C'est très intéressant de voir ce que fait cet instrument. Le père Alain Marie a dit, c'est l'instrument maxi-métallé, ce que je crois. On ne pourra pas aller beaucoup plus loin comme instrument. Alors ça devient une cause exemplaire. Quand l'instrument devient maxi-métallé, ça devient cause exemplaire. Et le danger, c'est quand il devient cause exemplaire. Un instrument, une bicyclette, cause exemplaire. Difficile. Tandis qu'un mirage peut devenir une cause exemplaire. De rapidité, d'efficacité, de... C'est très important de voir le passage de l'instrument à la cause exemplaire, maxime étalée. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre jugement? Le jugement artistique. Le jugement de l'artiste qui porte sur une statue, qui porte sur une peinture, qui porte sur un dessin. Le jugement artistique, c'est autre chose que le jugement prudentiel et que le jugement affectif. Ça porte sur l'œuvre. Sur l'œuvre. Je ne porte pas un jugement artistique sur quelque chose qui n'est pas de moi. Je peux porter un jugement esthétique. La beauté de la nature, la beauté d'une fleur. Tandis que sur la qualité d'un parfum, jugement artistique. Esthétique aussi, si vous voulez, mais... Autre, le jugement... sur la beauté de la nature, autre le jugement sur l'expression d'une œuvre. Deux choses différentes. Troisième jugement, sur l'aspect purement mécanique, le fonctionnement d'un moteur. Vous écoutez le ronronnement d'un moteur et vous dites, il a mal à l'estomac. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous cherchez. Et le mécano, très proche du médecin, deux moteurs différents. Vous écoutez les battements du cœur, vous écoutez le ronronnement d'une machine. C'est très différent. Et il y a quelque chose de semblable. Vous pourriez avoir des instruments qui vous donneraient tout de suite si le moteur va bien ou si le moteur ne va pas, comme pour le cœur. Ce serait plus vrai pour l'auto que pour le cœur. Inventez ça, vous aurez un brevet extraordinaire. Une application simple. Et qui permettra en 2 minutes de voir si un moteur marche bien. Oui, le rythme, ça se mesure. Toujours les deux aspects, hein, le vivant et le point de vue du moteur. Il y a des ressemblances et des différences. Pour le moteur d'avion, comme serait utile. Parce qu'on pourrait discerner des choses que Louis ne discerne pas toujours. Au plan mécanique, au point de vue du cœur, c'est l'inverse. Je crois plus à Louis qu'à l'instrument. Et pour les moteurs mécanique, c'est l'inverse. Oui, tous ces jugements-là, c'est intéressant à voir. Petite dissertation là-dessus. Le jugement esthétique, le jugement d'efficacité sur le moteur, le jugement du médecin, c'est encore un jugement artistique, puisque le médecin, c'est un artiste. Le médecin purement scientifique n'écoute jamais plus avec l'oreille. Il y a des médecins comme ça. L'appareil vous dit ça. L'appareil se trompe sans aucune espèce d'importance. Tandis que le bon médecin, qui est un artiste, vérifie toujours avec lui. Le médecin qui est purement technicien, il apporte son appareil. Voilà, résultat. Mais c'est très important de voir ça au point de vue du jugement. Ce n'est pas du tout le même jugement. Il y a une valeur de précision de la technique, mais plus la précision est grande, plus vous perdez les sensibles propres. C'est la question des sensibles propres et des sensibles communs. Ce qui est mesurable et ce qui n'est pas mesurable. Le jugement esthétique porte sur les sensibles propres. Esthésis, c'est le sensible. Le jugement mécanique porte sur la technique, le mesurable. Et il aurait tout un secteur très intéressant à creuser, là, point de vue critique. Et je crois que c'est très important de bien saisir la différence au point de vue philosophique. Il y a le jugement économique ensuite. Alors, vous avez un jugement politique. Le jugement politique n'est pas le même que le jugement prudentiel, que le jugement affectif. Et ce jugement politique va impliquer des éléments économiques ou va se ramener à l'économie. Et donc, il y a diversité de jugements politiques par rapport au bien commun, par rapport à l'économie. Et en dernier lieu, le jugement politique, C'est le jugement du père de famille ou de la mère de famille sur la famille. Et le PDG porte un jugement sur l'équilibre économique d'une usine. Et s'il est un grand PDG, il porte sur le climat humain de l'usine. C'est pas la même chose. Il y a un climat qui est mesurable uniquement par le point de vue économique. La survie de l'industrie, de telle industrie. Mais il y a le progrès, l'aspect beaucoup plus qualitatif du climat humain et l'aspect purement économique qui est mesurable. L'aspect humain ne se mesure pas. Et comme c'est curieux, il y a toujours, on retrouvait tout le temps ces deux aspects. L'aspect affectif et l'aspect purement efficace. L'efficacité se mesure, l'affectif ne se mesure pas. Il faut retrouver à tous les niveaux. Vous voyez, la diversité des jugements. Alors maintenant, j'essaie de comprendre le pourquoi de la diversité de ces jugements. Et je vois que c'est... La critique présuppose la philosophie du vivant. Donc c'est l'intelligence. Regardez comme intelligence séparée. Le nous d'Aristote, séparé. C'est... L'intelligence spéculative. Séparée du sensible. Intelligence spéculative. Alors, dans l'intelligence spéculative, selon les anciens, il faut voir s'il faut garder ça, il y a 3 degrés d'abstraction. Selon la scolastique, les 3 degrés d'abstraction. Premier degré d'abstraction, philosophie de la nature. Deuxième degré d'abstraction, philosophie mathématique. Troisième degré d'abstraction, philosophie première. 3 degrés d'abstraction. Vous voyez ça dans Maritain, les degrés du savoir. C'est classique. Faut-il garder ça aujourd'hui? Je ne crois pas. Je crois qu'on est obligé, mais je vous le donne parce que c'est une donnée traditionnelle, il faut la connaître. Il faut connaître les 3 degrés d'abstraction. Qui me donnent les 3 manières dont l'intelligence spéculative, c'est-à-dire séparée, juge. En philosophie de la nature, elle reste liée au sensible. En philosophie mathématique, elle est séparée du sensible physique pour demeurer dans le sensible intelligible, l'imaginaire. Et en philosophie première, elle est séparée de tout sensible. Donc vous voyez que le spéculatif implique la séparation progressive du sensible. 3 manières de me séparer du sensible. Et le jugement d'existence demeure dans la philosophie de la nature et dans la philosophie première. Les mathématiques abstraient du jugement d'existence. C'est le propre du domaine mathématique. J'ai donc un jugement qui porte sur les possibles. Les mathématiques demeurent dans le possible. La philosophie de la nature, la philosophie première, implique toujours le jugement d'existence. Le jugement d'existence à 2 niveaux. Au niveau des principes, et au niveau du mouvement. Donc, le jugement d'existence est pris de deux manières différentes. Au niveau des principes et au niveau du mouvement, du devenir, de ce qui est mieux. Tandis que dans les mathématiques, il y a un dépassement de ce jugement d'existence qui je suis en face des possibles. Donc, 3 degrés d'abstraction. C'est classique, ça. Il faut le connaître. Ça fait partie d'un patrimoine scolastique. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas essayer de le comprendre un peu autrement? Ça demeure vrai, mais c'est pas assez analysé. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on devrait essayer de comprendre cela un peu autrement. Et c'est là où il faudrait reprendre les degrés du savoir de Maritain. On devrait comprendre que l'intelligence spéculative, c'est-à-dire l'intelligence séparée, l'intelligence spéculative est liée au sensible propre. Jugement d'existence. C'est très vrai que le premier moment de l'intelligence spéculative, c'est philosophie de la nature ou philosophie de la matière. C'est presque mieux dire ça. Puis philosophie du vivant. C'est pas le même degré d'abstraction pour le vivant et pour la nature. Le vivant étant l'homme. Je ne fais pas la philosophie de l'araignée. Ça pourrait se faire. Parce que je n'ai pas la connaissance intime de l'araignée. Pas les confidences de l'araignée. Tu vois, moi, je ne l'ai pas. Vous l'avez peut-être, mais moi, je ne l'ai pas. Vous voyez, alors, il y a une philosophie du vivant qui implique une connaissance immanente. Je suis celui qui est témoin de ma vie. Tandis que je suis spectateur de la matière. Je ne dis pas les confidences de la matière. Je ne saisis pas le secret de la matière. Il n'y a pas de secret. Tandis que dans le vivant, j'assiste. Je suis présent. Je peux connaître de l'intérieur ce que c'est que se mouvoir. Et je ne le sais que pour l'homme. Ici, c'est le cosmos. La philosophie de la matière, c'est la philosophie du cosmos. La philosophie du vivant. Puis, philosophie de ce qui est. Philosophie première. Et la philosophie première, c'est la philosophie de l'esprit et de Dieu, et de l'être premier. Voyez les 3 aspects successifs du jugement d'existence. Le jugement d'existence me fait découvrir ce qui est mu, la matière, me fait découvrir le vivant, et me fait découvrir l'être premier et l'intelligence. L'intelligence séparée. Les 3 degrés. Et ça, c'est bien le point de vue de l'intelligence séparée qui saisit ces 3 niveaux. un niveau de pénétration, je veux dire de pénétration toujours plus profonde de la réalité. La matière montre les limites de ma connaissance spéculative. Je n'ai pas une connaissance directe de la matière. La matière est toujours un inconnu. C'est l'inconnu qui limite ma connaissance spéculative. Je m'arrête à la matière. Vous voyez, c'est pour ça que la matière est facilement considérée au plan purement spéculatif comme l'autre, l'ennemi, l'inconnaissable. C'est vrai, c'est l'inconnaissable. Personne d'entre nous ne connaît la matière directement. Pas de principe propre. La matière, c'est le foulcan. C'est l'infini. Un infini qui m'échappe. C'est pour ça que c'est toujours très irritant de chercher à connaître la matière. Et ça, je le saisis dans ce jugement spéculatif de la nature. La nature matière. Je n'ai pas de connaissance directe de la matière. C'est pour ça que c'est si éprouvant. La matière éprouve l'intelligence spéculative et l'irrite. Très irritant. Parce que je voudrais saisir directement et je ne saisis pas directement. L'intelligence est faite pour pénétrer intus legere. Or, je n'ai pas d'intus legere de la matière. Je n'ai pas une intelligence interne de la matière. Toujours, la matière, c'est le mur. Et la balle répond. C'est très curieux. C'est très important, ça. Je crois qu'aujourd'hui, on devrait être très attentif à ça. Qu'il n'y a pas de connaissance immanente de la matière. Donc, il n'y a pas d'intus legere. C'est la limite. Le mur. Au contraire, dans le vivant, j'ai une connaissance intime du vivant. Je peux saisir de l'intérieur le vivant. Dans la mesure où ce vivant vit dans la matière, il y a une limite. Mais il y a quand même une connaissance intime du vivant. Vous voyez la connaissance intime que vous avez de l'assimilation biologique. Très limitée. Tandis que dès que vous échappez à la matière, la connaissance intime que vous avez de la pensée, vous êtes à l'aise. Le cogito. C'est pour ça qu'on se réfugie dans le cogito. Très curieux le vivant, connaissance spéculative du vivant, connaissance spéculative de ce qui est en tant qu'être. Alors je connais l'esprit et l'être premier. Puis alors philosophie des mathématiques. Qui est une connaissance tout autre. Tout autre. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup le schème premier degré, second et troisième. Ce schème induit en erreur. Il vaut mieux prendre la connaissance spéculative philosophique reliée toujours au jugement d'existence. Le jugement d'existence par le bas, le jugement d'existence par le haut. Et entre deux, le jugement d'existence du vivant. Je vis. Quand dites-vous « je vis » ? Quand pouvez-vous dire « je vis » ? Vous pouvez dire « pour moi, être, c'est vivre. Pour Pour moi, vivre, c'est être. Pour le vivant, vivere est esse. Et voyez, c'est très particulier ça. C'est très intéressant de voir ces trois modalités au jugement d'existence. Ce lien que j'ai avec le monde physique, ceci est toujours donné dans le mouvement, dans le devenir. Quand je suis en face du vivant, ceci est, se donne dans le si me verrai, dans l'immanence de celui qui se meut, de la durée. Et puis, troisième jugement d'existence à l'égard de l'esprit et de l'être premier. L'être premier est un esprit substantiel. Trois modalités de jugement d'existence qui commandent par le fait même le jugement spéculatif. Vous voyez, je prends le jugement spéculatif au plan critique par rapport au jugement d'existence. Je crois que c'est beaucoup mieux que par rapport au sensible. C'est plus critique. Et donc, je vois les trois aspects du jugement spéculatif. Je vois quatrième aspect du jugement spéculatif, la philosophie des mathématiques, où il y a beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de demeures dans le jugement mathématique. Il n'y a pas qu'une seule. Et le jugement des mathématiques, la philosophie des mathématiques, ou le jugement spéculatif des mathématiques, a ceci de très particulier qu'il se coupe du jugement d'existence. C'est la mise entre parenthèses du jugement d'existence. Le mathématicien est à l'aise dans la connaissance du possible et des possibles. C'est ce qui montre la parenté entre le jugement du mathématicien et le jugement de l'artiste. Nous allons le voir tout de suite. La philosophie des mathématiques porte donc sur les possibles. Non pas les possibles réalisables, mais les possibles intelligibles. C'est le propre de la connaissance mathématique. Et dans ces possibles, je peux construire toute une diversité de possibles, de plus en plus abstraits. Je suis très libre dans les possibles. Je suis mon maître. C'est l'attrait extraordinaire des mathématiques. C'est que l'intelligence dans les mathématiques vit de cette subjectivité transcendantale. Non, c'est la critique. Je suis en philosophie, donc je suis en critique. Vous voyez ? Il n'y a pas de philosophie des mathématiques en dehors de la critique. C'est la critique des mathématiques par rapport à l'intelligence. Vous voyez ? C'est pour ça, philosophie des mathématiques, c'est en réalité un regard critique. Le mathématicien ne fait pas de la philosophie. Il s'en va avec son libre jeu. Vous voyez ? Et il n'y a pas de philosophie des mathématiques en dehors de la critique. Donc, philosophie des possibles, jugement spéculatif qui porte sur les possibles. Et qui est un degré d'abstraction différent des trois degrés. Pourquoi ? Parce que la mise entre parenthèses du jugement d'existence. Ah, vous voyez comme c'est intéressant à voir ça. Parce que vous voyez tout de suite que Husserl, qui est un matheux, fait une méta-mathématique avec la phénoménologie. On devrait appeler la philologie une métamathématique, puisque le jugement d'existence est mis entre parenthèses. Et je demeure dans les possibles. Et toutes les sciences qui dépendent des mathématiques, qui se formalisent par les mathématiques, impliquent le jugement d'existence entre parenthèses. Bon, vous voyez bien la table des jugements de l'intelligence préparée. L'intelligence peut être liée à la volonté. La volonté affective. Donc, j'ai le jugement affectif qui porte sur l'ami. Et la volonté peut être effective. J'ai le jugement prudentiel qui porte sur les moyens. C'est l'alliance de l'intelligence et de la volonté. Alors, je crois que c'est les deux grands jugements. Jugement affectif qui porte sur l'ami, donc qui porte sur une personne. Et en présentiel, vous voyez que là, le jugement d'existence est toujours présent. L'intelligence va s'allier avec l'imaginaire, l'imagination. Alors vous aurez une intelligence alliée à l'imagination. Vous entrerez dans le domaine mathématique, les possibles. Qu'est-ce qui connaît les possibles? C'est l'imagination. Il y a une connaissance métaphysique des possibles et qui est tout autre. Pourquoi ? Le possible métaphysique est toujours connu par l'acte. Donc il n'est connu qu'en second lieu et d'une manière analogique. Le possible de l'alliance de l'intelligence et de l'imagination en mathématiques est connue directement. Donc il y a là quelque chose de tout à fait nouveau. C'est la séduction du possible, les mathématiques. C'est l'évasion du réel. Le mathématicien a ce privilège énorme de s'évader du réel et de construire son monde. Il y a une autre alliance de l'intelligence et de l'imaginaire par la philosophie de l'art. C'est encore les possibles. Et c'est les possibles reliés au sensible. Et aux sensibles propres. Donc c'est les relier aux sensibles propres, ce que ne fait pas du tout la connaissance mathématique.
Dans le livre Schiff d'Avicenne, il met ces trois aspects classiques. En disant premièrement, il y a la philosophie de la nature, philosophie mathématique et philosophie première. Et en divisant
ça, ça vient d'Aristote.
Oui, mais en divisant ça, il met en lumière premièrement la matière et la forme. Il dit que dans la philosophie de la nature, on est toujours attaché à la matière et on est toujours attaché à la forme.
Toujours.
Tandis que dans la mathématique, on peut toujours abstraire la forme. en laissant la matière à part. Donc on peut travailler la forme en étant grossier. Mais dans la philosophie, dans la philosophie première, on abstrait les deux. La forme et... Donc moi je vois que dans tout cela, si on va analyser selon la forme et la matière, on voit que cette distinction que vous avez faite là-haut, par exemple la nature et le mouvement, les deux, ce sont une seule abstraction, liée, tous les deux sont liés à la matière, que ce soit cité.
Oui, tout à fait. Mais vous voyez, si je les prends à partir du jugement d'existence, je vais plus loin. Vous voyez, toute cette distinction, c'est ça qui m'a semblé très net. Cette distinction de la matière et de la forme, on en a fait comme la distinction fondamentale de tout, l'aristotélisme. Alors que pour Aristote, la distinction de la matière et de la forme est vraie au niveau du devenir. Pas au niveau de l'être. Or, la critique se situe au niveau de l'intelligibilité et donc au niveau de l'être. Vous voyez ? C'est pour ça que je vais plus loin. Je ne supprime pas la première distinction. Elle est valable, elle ne va pas assez loin. Vous voyez ? Et je voudrais aller plus loin pour essayer de saisir que la distinction, au point de vue critique, se prend non pas au niveau matière et forme, au niveau jugement d'existence. Vous voyez ? C'est ça que je veux montrer. Vous allez comprendre tout de suite. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais peut-être dû le faire pour que vous compreniez mieux. Gilson dit que la distinction fondamentale d'Aristote, c'est la distinction matière et forme. Bon, elle est fondamentale. Elle n'est pas la distinction principale. La distinction principale pour Aristote, c'est substance-accident. Acte et puissance. Donc c'est une distinction qui se prend du côté de l'être, et non pas du côté du devenir. Vous voyez ? Alors, si je continue à Vicène, qui à ce point de vue-là est tout à fait dans la ligne d'Aristote, je crois que nous devons aller plus loin. Et nous devons prendre la critique, non pas au niveau matière-forme, mais au niveau de l'intelligibilité de l'être. Et au niveau de l'intelligibilité de l'être, je vois les réflexions où il y a mise entre parenthèses du jugement d'existence et les réflexions où il n'y a pas mise entre parenthèses du jugement d'existence. C'est plus foncier. Parce que la philosophie première implique une relation avec le jugement d'existence. Au-delà de la distinction matière et forme. Oui. Et c'est ça qui me semble important. La philosophie première reste en contact avec le jugement d'existence. Au-delà de la distinction matière et forme. Ce qui est très difficile à garder, si je prends le schème, premier degré d'abstraction, deuxième degré d'abstraction, troisième, j'ai la tentation de considérer que la métaphysique ne garde plus le contact avec le jugement d'existence. Ce qui est arrivé en scolastique. Oui. Et c'est pour ça que je reprends le schème de cette manière. La distinction matière et forme est très importante, mais elle est dépassée par le point de vue du jugement d'existence. Parce que le jugement d'existence est présent dans la philosophie première. Et ce qui me semble important, c'est de voir une intelligence qui se développe liée au jugement d'existence, et une intelligence qui se sépare du jugement d'existence. Donc, c'est la distinction de l'acte et de la puissance qui commande ça, et non plus matière et forme. Vous voyez ? Ici, je suis en présence de l'être en acte. Avec les mathématiques, je suis en présence de l'être en puissance. le possible. Et tout ce qui dépend des mathématiques, tout le développement des sciences modernes, jusqu'à l'ordinateur, si je peux dire qu'il y a un logos de l'ordinateur. Voyez, tout ce qui dépend de la philosophie mathématique, toutes les sciences modernes, c'est des sciences du possible, du futurible, la philosophie du futurible. Et le point de vue de l'art, qui est possible, mais qui est relié toujours au jugement d'existence. L'artiste est plus proche du philosophe que le mathématicien. Parce que l'artiste reste lié au sensible propre et au jugement d'existence.
Souvent, on remarque que les grands mathématiciens sont aussi des très bons musiciens, des virtuoses.
Comment pouvez-vous... Des virtuoses. Là, d'accord, les virtuoses. Mais peut-être pas des grands artistes. Oh, mais ça c'est facile, parce qu'il y a les deux possibles, on peut passer de l'un à l'autre. Il y a un lien entre les deux. Ce que je disais, il y a un lien entre ces deux possibles. Il y a trois possibles. Le possible métaphysique, le possible mathématique et le possible artistique. Le possible métaphysique, c'est l'être en puissance. C'est l'essence. Connu secondairement et non pas premièrement. Le possible mathématique connu premièrement, coupé des sensibles propres. Le possible artistique qui est le possible de la réalisation de l'œuvre. L'artiste rejette tous les possibles non réalisables. C'est là la différence avec le mathématique.